9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ravi de vous retrouver mes camarades, d'autant plus ravi que j'ai plein de trucs à vous dire en ce vendredi. Normal, l'actualité a été très riche cette semaine. Tiens, je pourrais vous parler du 17 octobre 61. Vous savez, le jour où la police républicaine a cassé du melon. Ah, on en a jeté des arabes à la Seine. Allez hop, l'arabe, je vais t'apprendre à nager, moi. Et pour être certain que ces arabes ne s'en sortent pas, on leur a parfois attaché les pieds et les mains. Eh bien, tu sais quoi? Ça nous a permis d'apprendre une chose. Si tu jettes un Algérien dans l'eau en lui attachant les pieds et les poings, eh bien, le type, il coule. C'est fou quand même. Au passage, auditeur, t'auras probablement remarqué qu'aucune chaîne de télé n'a jugé important de faire une émission sur le sujet. En même temps, hein, les histoires de Bico, on s'en fout. Bon, allez, j'exagère à peine. Anne Hidalgo a promis d'ériger une stèle sur le pont Saint-Michel. Actuellement, on a une plaque commémorative. Eh bien, en 2019, on aura une stèle. Ouais, on l'a bien, la France, elle est généreuse avec ses bougnoules. J'aurais pu aussi vous parler de Mélenchon, mais je crois qu'on a tout dit, hein. Enfin, je me dis simplement qu'heureusement, ce type n'a pas été élu président de la République. C'est flippant, un type qui perd son sang-froid comme ça. Tu sais que quand t'es président de la République, tu peux être amené à appuyer sur le bouton nucléaire. T'imagines un peu la responsabilité. C'est sûr, il pouvait pas être président. Et puis, quelqu'un qui méprise les personnes qui parlent avec un accent a forcément un mauvais fond. Enfin, entre nous, on peut pas dire qu'il a été malmené, Mélenchon. La perquisition était quand même plutôt cool. Dans la vraie vie, quand t'as une perquisition chez toi, c'est comme si un tsunami était passé dans ton salon. Et puis, t'amuses pas à t'y opposer, sinon tu reçois le tsunami en pleine face. Oui, j'aurais pu vous parler de tout ça, mon cher Philippe, mais je préfère.
Je crois que vous préférez, je préfère que vous me parliez de tout ça. Finalement, si vous voulez qu'on parle de Mélenchon.
Oui, mais c'est trop tard.
Il y a des choses à dire, maître.
C'est trop tard, moi, je préfère.
Et là,
vous
je vais appuyer sur le bouton.
D'une émission.
Non.
Que j'ai eu le plaisir.
Ah,
le plaisir d'écouter hier l'émission où l'on cherche l'amour. Oui, je vous ai écouté, mon petit Philippou. Tiens, Souad vous a appelé hier.
Ouais.
Je l'ai trouvé un peu timide, Souad. Alors, elle vous a dit qu'elle faisait 1m55. Et puis, plus rien. Et vous, en bon professionnel, vous relancez Souad en lui disant « Mais Souad, quelles sont vos passions ?» Et sous le ton de l'humour, vous lui dites « Je sais pas, moi, vous faites du poney. » Qu'est-ce que c'est que cette remarque, mon cher Philippe? Vous faites du poney, mais quand on fait 1m55, on fait pas du poney. On est un poney. Et puis, il y a ce type qui fait 1m90. Bon, alors lui, je vais pas trop me moquer, hein. 1m90, ça impose quand même. Alors, pareil, vous lui dites, mais vous cherchez une femme de quelle taille? Il vous répond, pas en dessous d'1m60. Normal. Normal, parce que quand tu fais 1m60 et que tu vis avec un type d'1m90, il est difficile de l'embrasser sur la bouche. La différence de taille est trop grande. Bon, tu me diras qu'à défaut de l'embrasser sur la bouche, tu peux toujours
non,
te tenter de l'embrasser
non,
les couilles. Bon, allez,
mais
j'arrête.
Mais ça, c'est rare, ça va pas bien, maître.
J'arrête.
Je le savais. Je le savais.
Alors j'arrête.
Je le sentais.
Décryptage de l'actualité.
Oui.
Et je donne la parole à nos auditeurs pour poser les questions 01 53 48 3000 émissions sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Je vous rappelle, maître Serran, qu'il y a 10 ans, cette émission s'est arrêtée suite à une chronique, je vous rappelle.
Ah oui, c'est vrai.
Vous savez que vous n'êtes pas à l'abri.
Non, je sais
d'aller
bien
faire du ski toute l'année.
Je sais. Bah, ça dépend. Est-ce que ça va être financé par Beurre FM?
Ah, peut-être. Alors, bon, c'est pas du ski que vous ferez. Bien, maître Serran est avec vous, comme tous les vendredis, nouvel horaire. Vous pouvez l'interroger dans un instant au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Si vous souhaitez poser une question à maître Serran, une question juridique, ou si vous souhaitez simplement lui dire ce que vous pensez de sa chronique. Maître Serran, on va faire la distinction sur un vocabulaire, alors qu'on emploie souvent, des mots pour des autres. Par exemple, se porter garant, se porter caution et être caution de et payer une caution. Alors, quelle est la différence déjà de, entre la caution et se porter caution?
Alors, d'abord, il faut savoir que quand on se porte caution, on parle d'un contrat. Mais le nom du contrat, c'est un contrat de cautionnement.
C'est caution ou garant?
Non, c'est l'équivalent en la matière. La confusion, elle n'est pas tant là. La confusion, elle est dans le fait de dire on a un contrat de caution. Non, le contrat s'appelle le cautionnement. La caution, c'est la personne qui va se porter garante. Ouais, donc voilà. Ah bon, alors après, vous me direz, c'est des subtilités
ouais,
juridiques.
C'est très subtil.
Bah ouais. Oui, mais on fait du droit.
Bien.
Voilà. Mais c'est vrai que dans le langage commun, on a tendance, entre guillemets, à mélanger tout ça. Après, on peut faire quand même deux grands distinguos en la matière. On a la caution quand vous allez voir une banque et vous sollicitez un crédit, et le plus souvent évidemment un crédit immobilier. Dans ce cas-là, votre établissement bancaire peut vous demander qu'un autre établissement, qu'une personne morale puisse se porter caution, garante, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, je vais vous prêter cet argent, vous allez me rembourser cet argent par mensualité, et si demain, après-demain, pour une raison X ou Y, vous ne pouvez plus payer, cet établissement qui s'est porté garant, qui s'est porté caution, va rembourser la banque. Mais bon, pas tout ça, évidemment, pas de manière généreuse et à titre gratuit. Ensuite, c'est cet établissement qui va se retourner contre vous. Donc, ça évite tout simplement à la banque, ensuite, d'engager des procédures. Et puis, ces histoires de caution, on l'entend le plus souvent en matière de location immobilière.
D'appartement, ouais.
Voilà. C'est-à-dire que votre propriétaire, lorsque vous allez lui montrer vos documents, on peut dire, écoutez, de ce que vous gagnez, moi je considère qu'il n'y a pas une garantie financière suffisamment large, donc je vais vous demander, ou je vais demander à un membre de votre famille de pouvoir, entre guillemets, assurer derrière, donc se porter garant, se porter caution. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si demain, après-demain, vous ne payez pas mon loyer, mon cher Philippe, je serai obligé, et pourtant je vous aime bien, mais je serai obligé de poursuivre le ou les personnes qui se sont engagées pour vous dans l'hypothèse où il y aurait une carence de votre part. Alors, il y a deux types de caution, donc ça c'est important. On a ce qui s'appelle la caution simple. Alors, je vais vous dire ce que c'est, mais dans la pratique, les propriétaires ne sollicitent jamais la caution simple. La caution simple, c'est qu'à partir du moment où vous arrêtez de payer, je vais d'abord essayer de vous poursuivre, vous, alors qu'a priori, si vous ne payez pas, c'est que vous êtes, entre guillemets, quasi insolvable. Et puis, je vais tenter de vous poursuivre en justice, et si ça ne donne rien, je vais me retourner éventuellement donc contre les personnes qui se sont portées caution pour vous. Et puis, on a ce qui s'appelle la caution solidaire. Et ça, c'est exigé par les propriétaires. Ça signifie tout simplement que s'il y a une carence de votre part, je ne vais même pas vous chercher des poux dans la tête, puisque je considère que vous êtes insolvable et ça va me coûter des frais de procédure inutiles, je vais engager directement la responsabilité des amis ou des membres de la famille qui se sont portés garants pour vous. Il y a des conditions de forme qui sont très pointues. C'est-à-dire que celui qui va se porter garant pour vous, il faut qu'il comprenne bien l'étendue de sa garantie.
Donc, les gens, en général, vous rendent service, mais ne comprennent pas toujours l'engagement qu'ils prennent.
C'est toute la difficulté.
Déjà, ça dure combien de temps?
Alors, pareil, en fait, vous avez une possibilité, entre guillemets, de moduler. C'est-à-dire que ça peut être une caution, on va dire, infinie. C'est-à-dire que le bail va être...
C'est comme un CDI, quoi.
Voilà, il va être renouvelé, indéterminée. Et puis... Il arrive même parfois que la caution a oublié qu'elle était caution au bout de X années. Donc, c'est vrai qu'il y a un cadre légal très précis quand vous portez caution, quand vous êtes garant. Il faut bien lire le document. Et vous pouvez demander à ce que votre garantie soit limitée dans le temps. Alors, limitée dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins la durée du bail quand même.
D'accord. Vous vous fâchez, Maître Serran, entre-temps, et que vous ne souhaitez plus être caution pour la personne auprès de laquelle vous vous êtes engagé, c'est quoi la procédure?
Il faut impérativement, par lettre recommandée avec accusé de réception, informer le propriétaire en disant « Voilà, à telle date, je me suis porté garant et puis je vous signale que pour autant, vous serez toujours tenu pour la durée du bail, en tout cas la première durée du bail. Ouais. Pas pour le renouvellement, mais pour la durée du bail. » Donc il faut...
On le voit en cas de séparation des couples notamment.
Alors c'est bien de rendre service et tout ça, évidemment, mais ne vous faites pas berner non plus, parce que je vous dis, il arrive parfois que des personnes débarquent chez nous en disant « mais j'ai oublié que je m'étais porté garant, et ben, parce que ça relève à X temps ». Le propriétaire, lui, ne l'oublie pas. Et il a juridiquement le droit de se retourner contre vous. Comprenez que si vous avez, vous, été condamné à payer le propriétaire, vous avez aussi la possibilité de vous retourner contre la personne pour laquelle vous êtes porté garant. Bon, alors quand c'est un membre de la famille, c'est délicat. Et puis un membre de la famille qui est insolvable, c'est encore plus délicat.
Maître Serran, il y a ce qu'on appelle une caution quand on prend un appartement, que la plupart du temps, le propriétaire va encaisser. Est-ce que si on a un petit problème de trésorerie, on peut estimer que les 2 mois de loyer, le propriétaire les a puisqu'il a encaissé votre caution?
Alors, on n'est plus sur 2 mois de loyer, la loi a changé, on est sur 1 mois.
Voilà. Mais ça peut aller jusqu'à 2 mois.
Alors, la loi dit 1 mois, mais en vérité, on voit bien, on est sur 1 mois, juridiquement parlant. mais on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité entre le propriétaire et celui qui est à la recherche d'un appartement. C'est pour ça, je vous disais, il y a deux types de cautions et vous pouvez choisir. Mais on peut choisir en théorie, dans les faits, quand le proprio vous dit c'est comme ça et pas autrement, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Vous allez,
vous incliner. Ouais. Après, cette histoire de caution que vous avez versée, donc c'est un montant qui doit vous être restitué à la fin du bail, sous réserve évidemment que lorsque l'on fait un état des lieux, l'appartement que j'ai mis à votre disposition reste propre lorsque je le récupère. À défaut, évidemment, je peux moi demander un devis à une société et dire ça va me coûter combien pour remettre l'appartement en état, et dans ce cas-là, j'aurai la possibilité de conserver ce montant. Il y a beaucoup de litiges en la matière. Si je ne conserve pas ce montant, dans ce cas-là, je vous le restitue spontanément, mais si je ne vous le restitue pas spontanément alors que c'est injustifié, il ne faut pas hésiter donc à saisir le tribunal.
Bien, il y a beaucoup de questions sur les cautions. Vous pourrez d'ailleurs en poser dans un instant, Maître Serran. Je vous rappelle que le numéro du standard... Voilà, Maître Serran, un peu de tout. Vous allez avoir un chocolat pendant la pause, ça vous adoucir la voix.
Gentil,
01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Et c'est Fouad qui vous appelle depuis Toulouse, Maître Serran. Fouad, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Je vous appelle concernant une question sur la situation de mes grands-parents.
Oui.
Donc j'ai mon grand-père qui est résident en France. Il fait les allers-retours régulièrement vers le Maroc. Et j'ai ma grand-mère qui vit au Maroc. On a essayé de faire plusieurs fois faire en sorte qu'elle vienne en France, et ça a toujours été refusé.
Alors, quand vous dites faire en sorte qu'elle vienne en France, ouais, c'est-à-dire qu'elle vient comme, entre guillemets, comme touriste ou pour résider sur le territoire français ?
Alors, en fait, on a fait en 2011, on a fait une demande de regroupement familial qui a été... Excusez-moi, je suis un peu stressé.
Non, mais tranquillisez-vous, Fouad.
Moi, c'est normal. Si je devais parler à Maître Serran, j'aurais peur, Fouad.
Bon,
vous avez raison. Alors.
Je pensais vraiment pas vous avoir à la radio, il y a mon sens que vous avez écouté.
Bon, alors revenons sur votre grand-mère, en tout cas.
D'accord, voilà. Donc en 2011, donc il y a eu une demande de regroupement familial qui a été faite.
Oui.
Elle a été refusée au motif que les revenus de mon grand-père n'étaient pas suffisants.
Parce que ouais.
Immobilier. Forcément, mon grand-père, il fait les allers-retours France-Maroc. Il vit plus au Maroc qu'en France. Mais le souci, c'est que maintenant, il devient âgé, tous les deux.
Oui.
Et on a fait des demandes de visa touristique et elles ont été refusées par plusieurs de ses enfants.
Donc, le motif du refus concernant la demande de visa touristique, on vous dit quoi précisément ? Je ne parle pas d'un visa d'installation, hein, mais visa touristique.
Visa touristique, on n'a pas reçu de motif.
D'accord.
J'avais envoyé un courrier, moi, à l'époque, c'était peut-être en 2015, j'avais envoyé un courrier accusé de réception et je n'ai pas eu de réponse.
D'accord.
Elle a quel âge, votre grand-mère, Fouad ?
Elle a 70 ans et mon grand-père, 80.
Est-ce que les autorités, quand les gens commencent à aller en âge, Maître Serran, sont... on va dire, refusent plus facilement les visas parce qu'ils ont peur que les gens restent.
Bah oui, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que dans le cas de Fouad, on a son grand-père donc, qui est officiellement résident sur le territoire français, mais la grand-mère est au pays. Donc vous comprenez bien que les autorités françaises se disent tout simplement quoi ? Bah, se disent que dans l'hypothèse où j'accorderai évidemment alors un visa d'installation, bon, bah, elle va s'installer, mais on va aller au-delà. C'est-à-dire que quand bien même je lui accorderai juste un simple visa pour jouer les touristes et pour aller voyager, la probabilité pour que la grand-mère retourne au pays est infinitésimale. Donc, encore une fois, c'est toute la difficulté. Donc, rien n'interdit ou n'interdirait de contester les refus de visa. Mais sincèrement, les autorités consulaires vont considérer qu'il y a une sorte de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'elles vont présumer qu'il y a une sorte de mauvaise foi. Alors que la règle étant que si je dis « je viens » comme touriste, et dans l'hypothèse où je me maintiens sur le territoire français au-delà de mon visa, donc là, oui, je serai entre guillemets fautif. Mais le raisonnement des autorités françaises, c'est ça, c'est dire Moi, je veux éviter que la personne mette un orteil sur le territoire français, comme ça, j'aurai plus à courir après elle. Donc, Fouad, il n'y a pas mille options. Alors, si, on peut faire du purement juridique, mais vous voyez, il y a un raisonnement qui est un peu pervers, et la question de Philippe est intéressante, parce que les autorités se disent qu'on a affaire à des personnes qui ont quand même un certain âge. Je ne vous cache pas qu'entre saisir la commission des recours, des refus de visa, et saisir ensuite éventuellement un tribunal administratif, saisir aussi éventuellement une cour d'appel administrative, ça prend du temps dans une procédure. Alors bon, quand vous avez 30, 40, 50 ans, on peut jouer avec. Quand vous avez 80 ou 90 ans, ça devient un peu plus compliqué. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a ce retentissement aussi psychologique et les autorités jouent aussi de ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options, Fouad. C'est-à-dire que les autorités françaises, de facto, vont considérer que si votre grand-mère vient, elle ne partira plus. Le raisonnement, c'est ça. Donc, ils vont, a priori, vous apporter que des refus. Je le redis, vous pouvez évidemment contester tout ça, mais voilà, on est à minima quand ça va vite, quand on passe devant la commission, quand on passe devant le tribunal administratif de Nantes, puisqu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'il y a un seul tribunal en France qui gère ce type de litige. Donc, il est ultra saturé. Quand ça va vite, 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 ça tourne autour de deux ans et demi, donc et parfois un peu plus. Donc voilà, alors c'est difficile d'expliquer à une personne d'un certain âge, voilà, j'ai engagé une procédure et on aura une réponse A, et parfois la réponse est négative. Donc c'est un coup sur le moral. Donc ça me semble, alors c'est pas impossible, Fouad, que ça vous soit accordé, mais spontanément comme ça, de la part des autorités consulaires, c'est peu probable. Donc il faudra un moment ou un autre vous poser la question de savoir s'il faut aller au-delà et donc rentrer dans le contentieux.
D'accord. Et par contre, ce que je voulais préciser, c'est que la majorité des enfants vivent en France. Certains sont français.
Oui, les...
parce que pour moi, là, c'est vraiment une question de droit de l'homme. Mon grand-père a le droit de vivre avec sa femme, mais la majorité de ses enfants en France.
Mais monsieur, vous avez entièrement raison. Il y a même des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme donc qui peuvent être invoquées. Dans tout ce que vous dites, c'est une réalité et tout ça semble évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser évidemment la grand-mère au pays alors que la quasi-totalité de la famille est sur le territoire français. Mais encore une fois, les autorités consulaires sont assez imperméables à ce type d'argument. C'est pour ça que je vous dis, alors vous formalisez évidemment la demande, mais vous serez à un moment ou à un autre, selon moi, obligé de vous retrouver devant une juridiction. Mais votre argument, évidemment, tient la route. Et c'est cet aspect-là, alors qui sera traduit par l'avocat sur un plan purement juridique, qui est invoqué devant les juridictions. Mais voilà, les autorités françaises ne sont pas sensibles à cet aspect-là. Le fait que toute la famille soit en France et que votre grand-mère soit au pays, bon, ça ne les dérange pas, entre guillemets, plus que ça.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Fouad. Merci pour votre question. D'autres appels dans un instant. Vous voulez interroger Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000 jusqu'à 10h.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le vendredi, c'est Maître Serran qui répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000. Si vous n'arrivez pas à avoir le standard ou si vous ne souhaitez pas passer au standard parce que Maître Serran vous intimide, ce que je comprends tout à fait.
Normal.
Vous pouvez lui envoyer un petit message par mail, par exemple.
Alors, sur maître.serran, serhane@gmail.com.
Et l'appeler sur son téléphone cellulaire.
Aussi, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Amira est avec nous, Maître Serran. Bienvenue, Amira.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Amira.
Alors moi j'ai une question, c'est par rapport à... C'est un peu comme le dernier éditeur qui a parlé...
Un peu comme Fouad de Toulouse.
Oui, voilà. En fait, moi j'ai ma mère qui a 56 ans. Et elle est en Algérie, je suis sa fille unique. Et voilà, elle est célibataire. Et moi, en fait, je suis là depuis 6 ans, je suis en situation régulière. Par contre, j'ai que ma carte de 10 ans. Et j'ai des enfants, j'ai trois enfants ici. Du coup, en fait, j'aimerais savoir, parce qu'elle a fait déjà des demandes de visa parce que elle veut seulement venir juste pour me voir. Et mais par contre, s'installer, elle veut pas trop. Mais par contre, parce que comme moi, quand mes enfants ils sont scolarisés ici, j'ai pas l'intention de revenir m'installer en Algérie. Du coup, voilà, ma mère, elle a 56 ans et c'est sûr que voilà, elle vieillit et au bout d'un moment, il faudra que
Ouais,
quelqu'un qui prend soin d'elle et tout, etc.
c'est toute la difficulté, mais c'est terrible parce qu'évidemment, comme dirait l'autre, 90% de notre communauté, entre guillemets, va être ou sera touchée par ça. C'est-à-dire que les parents vieillissent, ils ont des problèmes de santé, et puis les enfants, quand ils ne sont pas en France, ils sont ailleurs, mais pas au pays. Donc c'est vrai qu'on a envie légitimement de venir rejoindre les membres de la
Moi, je
famille,
suis
de
sa fille
rejoindre les
unique,
enfants.
maître. Elle n'a pas d'autre enfant. Je suis
Ouais.
sa fille unique. C'est-à-dire, elle dépend que de moi. Elle n'a
Ouais.
vraiment personne là-bas.
Alors, le terme que vous utilisez est intéressant. Elle dépend de moi. C'est-à-dire que quand on demande des titres en disant, écoutez, c'est pour venir rejoindre ma fille, mon fils, enfin peu importe, déjà le fait effectivement d'être la fille unique. Ça coupe toute une série d'arguments aux autorités consulaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire non, mais attendez, il y a encore des enfants ou quelques enfants qui sont au pays, donc elle n'est pas obligée de venir en France. Donc, ça, c'est intéressant. Vous me dites que vous vous occupez d'elle, alors ce serait bien de traduire ça entre guillemets sur un plan financier, c'est-à-dire que si vous envoyez, par exemple,
Oui, j'envoie
voilà,
tous les
de
mois
l'argent,
depuis
ben
quatre
voilà.
ans,
Donc, il
tous les
faut.
mois.
Bon, alors ça, c'est une bonne chose, c'est aussi un argument qui est intéressant, puisque ça laisse entendre qu'il y a une dépendance économique de votre maman à votre égard. Donc voilà, quand cet argument sera éventuellement développé pour demander à ce qu'elle puisse venir, et on va vous dire, bah, écoutez, oui, d'accord, mais alors prouvez-le-moi, donc vous pouvez en justifier. Donc c'est vrai que les éléments sont réunis, mais ma réponse va être quasi la même que celle que j'ai apportée à Fouad, c'est-à-dire que vous considérez, je considère objectivement que les éléments sont réunis maintenant. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais il est peu probable que les autorités consulaires soient sensibles à ce type d'argument. Alors d'abord, ce que je vous disais, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de dossiers de cette nature et de moins en moins de tolérance de la part des autorités françaises. Donc, quand on veut faire venir quelqu'un, ne vous dites pas spontanément, tiens, première demande, ça va passer. Dites-vous, en tout cas, il faut vous préparer psychologiquement, éventuellement à un refus et donc à contester ce refus. Alors, ça veut dire quoi
Elle a eu
concrètement?
déjà trois
Eh
refus
ouais. Et
déjà
alors, c'est motivé comment? On vous dit quoi quand on lui refuse?
La première fois c'était quand elle a fait sa demande de visa c'était ils ont dit que financièrement qu'elle avait pas assez d'argent ils ont mis dans le dossier qu'il y avait un manque d'argent
Ouais.
et la deuxième on a mis une lettre en expliquant que que je suis sa fille unique nanana machin elle voulait venir pour voir ses petits-enfants etc.
Ouais.
Ils ont dit que que l'appartement où j'habite c'est vraiment petit que mais moi j'ai un 9-3 et
Voilà, alors,
je sais.
mais ça, c'est pas, vous voyez, c'est pas un argument qui est complètement farfelu. C'est-à-dire qu'évidemment, on va tenir compte de votre composition familiale et voir s'il y a suffisamment de mètres carrés pour votre maman. C'est-à-dire que le fait de dire, bon, j'ai un petit appartement, mais on va quand même s'arranger, elle pourra quand même dormir à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que pour les autorités consulaires, ça ne tient pas la route. Il faut quand même, ce qu'on peut comprendre, hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement fautifs, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, c'est-à-dire est-ce qu'elle aura une autonomie financière? Et moi, France, je ne veux pas demain que votre maman, si je l'autorise à venir en France, qu'elle vienne toquer à la porte de l'administration pour dire je suis démuni, venez m'aider. Donc le raisonnement, c'est ça. Et après, on peut aussi comprendre que les autorités françaises exigent aussi que votre maman soit reçue dans de bonnes conditions. Donc, ouais, les critères en eux-mêmes ne sont pas critiquables. Donc, moi, je peux comprendre ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont parfois appliqués, j'allais dire, de manière bête et méchante. On ne tient pas forcément compte de la situation lambda de telle ou telle famille. Donc, c'est un couperet qui tombe. Mais, comme à l'auditeur précédent, je vous dirais que si vous vous contentez, entre guillemets, d'avoir un refus en disant bah, c'est pas grave, tiens, l'année prochaine ou dans 2 ans, je vais recommencer, les autorités françaises raisonnent comment? En disant Mais elle a déjà demandé une première fois, une deuxième fois, on lui a refusé, elle n'a jamais contesté. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que vous donnez raison aux autorités consulaires si je vous dis ben non, je ne veux pas pour tel ou tel motif. Mais si vous ne contestez pas derrière la première ou la deuxième fois, c'est que vous me donnez raison. Pourquoi est-ce que la troisième fois, je vais prendre le temps d'examiner votre dossier ? Donc ça, c'est terrible, parce que ça, ce n'est pas du droit. Mais c'est une manière, entre guillemets, de gérer ce type de litige. Quand vous avez un refus, il ne faut pas hésiter à contester. Alors là, vous avez reformulé une demande ou pas encore ?
Alors, les rendez-vous, ils sont trop longs. On a des problèmes en ce moment.
Pas qu'en ce moment. Oui, c'est récurrent. Ouais, c'est récurrent.
Oui, depuis là, ces derniers temps, depuis qu'elle veut refaire la demande, là, depuis mois de mai, on essaie de tenir un rendez-vous sans succès. Du coup, là, pour la troisième tentative, on va essayer de faire une réservation d'hôtel. On oublie l'attestation d'hébergement. On va essayer de faire ça avec une... Elle, je vous dis, elle, sincèrement, elle ne veut pas s'installer pour le moment. Elle ne veut pas. Elle veut seulement venir casser un peu la routine.
J'entends bien. Mais je vous crois volontiers. Mais vous avez vu ce que vous avez ajouté. Elle ne veut pas s'installer pour le moment. Les autorités consulaires retiennent le « pour le moment ». C'est ça la difficulté. Et ce serait, alors je serais de mauvaise foi en disant que ça n'arrive pas. Voilà, on a des personnes qui viennent comme touristes et qui, pour des raisons lambda, ne veulent pas retourner au pays, que je peux comprendre. Donc il faut faire attention à ça. Mais oui, il va falloir reformuler une nouvelle demande.
Mais ce qu'on va faire, on croise les doigts pour cette fois-ci.
Bon, et tenez-nous au courant, Mira. Mais c'est
ça
vrai
marche.
Que... Merci faut pas lâcher l'affaire. Gros bisous, Amira.
Je suis sa fille unique et c'est ma maman. Je ne lâcherai jamais l'affaire.
Gros bisous, Amira.
Au revoir, Amira.
Au revoir.
À bientôt. Mais c'est vrai qu'on entend qu'il y a beaucoup de délais en ce moment, Maître Serrana.
Ouais.
Youssef est à Toulouse au 01 53 48 3000. Youssef, bienvenue.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Comment allez-vous ? Ça va ?
Ça va et vous, Monsieur Youssef ?
Bon, impeccable, impeccable. Dites-moi, moi, je viens juste un peu au renseignement. J'ai ma grand-mère qui a vécu chez mon frère en Italie de 2003 à 2013. Et donc le frangin a fait comprendre à la grand-mère de ramasser ses clics et ses claques. Donc elle est venue en France en 2013. En 2013, on lui a fait une demande de titre de séjour. Alors pendant les 5 ans où elle a vécu avec nous, il lui donnait des visas, carte de séjour touriste. Donc, octobre dernier, elle a obtenu son titre de séjour officiel, avec autorisation de travailler sur le territoire français.
Ouais.
Donc, automatiquement, on a pris une assistante sociale pour essayer de voir les droits qu'elle avait le droit à avoir sur le territoire. Donc, ils ont accordé la PMU, et on avait fait une demande de minimum vieillesse, voilà, avec l'assistante sociale. L'assistante sociale, elle nous a dit qu'elle y avait le droit. Vu qu'elle était ressortissante de l'Union européenne, etc. Et après, on a reçu de la Caisse des dépôts à Bordeaux le refus. Mmh. En disant qu'elle n'était pas sur le territoire depuis plus de 10 ans, je crois, ou 5 ans d'affilée.
Il y a effectivement des conditions à réunir en la matière. Donc, alors de tête, je vous dirais des bêtises au niveau du timing et du délai, mais effectivement, ce qui est légitime et normal, il y a des conditions à réunir. Mais quand ils vous disent ça, ça correspond à une réalité. Quand ils vous disent, mais attendez, il y a ce délai qui n'est pas respecté, c'est vrai ou pas, ou ils sont dans l'erreur?
Franchement, je ne sais pas. Après, je ne vais pas vous cacher, avec le boulot et tout, je n'ai pas fait les recherches nécessaires. On a été voir après une autre assistante sociale auprès de la CAF. La CAF nous a dit, bon, écoutez, vu son âge, on va quand même essayer de faire une demande de RSA en attente de faire un recours au tribunal administratif. On a fait le recours auprès du tribunal administratif. On n'a pas eu de réponse au jour d'aujourd'hui. Ça va faire pratiquement 8 mois qu'on a fait la demande.
Non, alors c'est délai normal. Hein. Si vous me dites que vous avez saisi le tribunal administratif il y a 8 mois et que vous n'avez pas de réponse, entre guillemets, pas de panique. C'est-à-dire que, alors d'accord. Évidemment, c'est particulièrement long, mais là, le délai que vous me donnez est un délai qui est normal.
D'accord, ok. Okay. Et après, bon, c'est vrai qu'avec le conseil départemental, quand ils ont vu le dossier de la grand-mère, ils nous ont dit non, vu son âge, on ne peut pas lui accorder le RSA, quoi.
D'accord.
C'était à titre exceptionnel, voilà. On a essayé de demander, mais bon.
Mais vous voyez, c'est. Alors, ce que vous dites là, alors évidemment, j'allais dire, moi, je ne critique pas la démarche et je la trouve même légitime. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez bien compris, c'est quoi la crainte des autorités françaises? C'est aussi ça.
Oui, c'est.
Vous voyez, c'est-à-dire que je suis le consulat, je vais, entre guillemets, céder à votre demande, autoriser votre père, votre mère, votre grand-mère, peu importe, à venir sur le territoire français. Et après, il y a, entre guillemets, un changement de philosophie. C'est-à-dire qu'on a la personne que j'autorise à venir sur le territoire français qui vient toquer. Encore une fois, légitimement, hein, c'est, voilà, oui, ne le prenez pas mal, mais qui vient toquer auprès des services administratifs pour dire voilà ma situation, elle est plus ou moins précaire, donc j'aimerais que. C'est ce qui fait que les autorités consulaires maintenant filtrent de manière très pointue ce type de visa. C'est pour éviter ce genre de choses. Ouais, c'est ça qui est terrible. Alors. Vous avez bien compris, je ne dis pas que c'est abusif, c'est légitime. Mais sincèrement, c'est-à-dire que même moi, l'Algérien que je suis, je peux comprendre que les autorités françaises, si elles disent à des grands-parents ou à des parents, « Ok, vous me dites que vous allez chez votre fils, chez votre fille, enfin peu importe, je vais vous autoriser à venir, mais soyez autonome financièrement. » C'est-à-dire que moi, je vous autorise à venir. Ne venez pas toquer à ma porte parce que, dans ce cas-là, retournez au pays et toquez à la porte de l'administration de votre pays. Ouais, le raisonnement, c'est ça. Et à la fin, et à la fin, tout le monde trinque puisque les autorités consulaires sont de plus en plus difficiles et compliquées pour accorder ce type de visa. Bah, c'est ça la difficulté.
Ouais.
Donc, alors. Pour votre grand-mère, enfin, vous me dites qu'il y a pour l'instant un recours qui a été formalisé auprès du tribunal administratif.
C'est ça, voilà.
Bon.
Ils nous avaient demandé, vous savez, des attestations sur l'honneur, comme quoi personne ne dépend financièrement d'elle.
Bah oui.
Ils nous donnent de l'argent, quoi. Et effectivement, je ne vais pas vous mentir, c'est la réalité des choses. Au jour d'aujourd'hui, avec un SMIC, bon, c'est chaud de partager le SMIC, quoi.
Non, mais monsieur, c'est, encore une fois, c'est légitime. Mais je vais vous dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct, mais pardon de le dire. C'est-à-dire que moi, je considère que quand, dans la famille, on veut faire venir, encore une fois, son grand-père, sa grand-mère, peu importe, si on n'a pas les capacités financières de pouvoir assumer ça, ça sert à rien de la faire venir parce que cette pauvre personne, là, votre grand-mère, comme voilà, j'allais presque dire, elle doit être paumée, elle sait pas trop quoi faire et c'est terrible en plus à cet âge-là si vous avez l'impression qu'il y a une véritable fragilité financière. Donc c'est aussi, ça relève aussi de notre responsabilité. Voilà, vous voyez. Donc si vous avez la possibilité d'assumer pour un membre de votre famille, c'est tant mieux et faites-le. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'assumer, envoyez peut-être de l'argent en convertissant, comme dit à l'autre, c'est financièrement moins lourd pour les personnes qui habitent ici. Mais les faire venir et ensuite voir ces personnes tomber dans une sorte de précarité, enfin voilà, j'avais presque dire, c'est quasi haram comme manière de faire. C'est pas la bonne chose, franchement. Ouais. Donc, qui exaspère les autorités françaises aussi. Hein.
Voilà. Nous, on a fait venir là-bas parce que quand elle était au Maroc, personne ne l'a calculé. Donc nous, on avait pris en charge le frangin comme il avait une bonne situation en Italie avant la crise. Mmh. Il avait sa propre boîte d'électricité, il tournait bien, il faut dire qui. Et il a fait venir grâce à ses revenus. Et après, quand il a commencé à se casser la gueule, il a fait comprendre, ramasser quelques éclats pour voir ailleurs.
mais vous voyez, entre ce comportement et celui des autorités consulaires, quand elle refuse, le plus critiquable, ce n'est pas l'autorité consulaire. Je trouve ça terrible ce que vous êtes en train de raconter. Voilà. Quand on fait venir un membre de sa famille, ou pas d'ailleurs, mais quand on prend cette responsabilité-là, même si ça devient difficile, il faut quand même assumer. Enfin, ça n'a pas de sens ensuite de dire à la France, débrouillez-vous avec la grand-mère. Enfin, c'est quand même terrible d'entendre ça.
Il y a l'aspect juridique et puis il y a l'aspect familial et humain. En tout cas, merci Youssef pour votre question. Vous voulez poser une question à Maître Serane, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez. On prendra un appel dans un instant, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant.
Vendredi, vous retrouvez Maître Serane, 9h-10h. Le plaisir de retrouver Maître Serane en semaine. Enfin,
non, c'est vrai, sauf que personne ne m'écoute ici. Ils annoncent quoi? Vous allez retrouver Philippe Robichon. On ne peut pas spontanément annoncer Philippe Robichon avec Maître Serane. Ça, ce n'est pas possible.
Je pense que c'est possible. C'est plus cher.
Ah, d'accord.
Ah, vrai, je vais le soumettre à la direction d'antenne.
S'il vous plaît.
Je pense que d'ici juin 2019.
On est sauvés.
Après le ramadan.
Alors, d'accord.
Vous avez une théorie sur les téléphones portables, Maître Serran. Vous m'expliquez un petit peu ?
Ma théorie sur les téléphones portables ? Oui, enfin bon, moi, on ne fait pas de pub, mais j'ai un téléphone avec une pomme au milieu.
D'accord.
Et je me suis engagé.
C'est un quoi que vous avez ?
C'est un... Je sais pas, c'est un 3, non, peut-être ? Je sais pas.
Non, je sais pas.
Ou un 4,
je sais pas. C'est un, je sais pas, moi je ne connais rien du tout.
En tout cas, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça le truc,
donc
c'est que ça coûte.
Si se casse,
j'en achèterai plus, ni de cette marque, ni de l'autre Samsung. Je prends les vieux téléphones balourds.
Nokia 5110, par exemple.
Ah, bon, ceux
Nokia
qui tombent 35... dans l'eau, qui tombent n'importe où et qui fonctionnent toujours. Ah, j'en ai marre, ces jouets qui coûtent une fortune et on se fait systématiquement arnaquer.
Vous avez raison.
Voilà. Je deviens un vieux con, attention.
Ah, c'est ça.
Ouais.
Vous étiez con, maintenant vous êtes vieux.
Un vieux con.
Voilà, c'est ça. Tiens, Isma est avec vous et je crois qu'Isma veut vous parler, Maître Serran. Isma, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Isma.
Bonjour. Voilà, je me permets de vous appeler, j'ai deux petites questions si vous permettez.
Bah, non, une seule.
Une seule, d'accord, ok, c'est parti pour
non, Isma.
Non, vous avez dit une, c'est une. Ouais. Ouais. Pas.
Je reviens sur ce que j'ai dit, Isma. Trois questions pour Isma.
Allez-y. Oh,
c'est votre cousine.
Alors, je vous appelle. Je suis algérienne et j'ai une carte de séjour de 10 ans.
Ouais.
Et j'ai ma maman qui a eu sa nationalité française au cours des années 2000. Et elle a eu une réintégration à la nationalité française.
Ouais.
Et donc, ma question aujourd'hui, je souhaite déposer ma demande de nationalité française. Est-ce que je dois opter pour une naturalisation ou pour une...
Non,
une
vous...
Voilà. Par filiation.
Vous allez... Non, pas par filiation, puisque votre maman a eu sa nationalité française dans le cadre d'une réintégration. Donc, pour vous, ça va être une demande de naturalisation. Mais il est certain, alors quand je dis ça, après j'ai des personnes qui me disent « Mais Mehmet, vous m'avez dit ça et puis on m'a refusé ». J'allais vous dire, il est certain que le fait que votre maman ait obtenu une réintégration, alors je ne dis pas que c'est le sésame et que ça va ouvrir toutes les portes, mais vous voyez, ça fait partie des éléments qui sont quand même pris en considération par l'administration. Donc le terrain est fertile, voilà, vous partez dans de bonnes conditions.
D'accord.
Mais demande de naturalisation, voilà.
Entendu, d'accord. Je passe à la deuxième question.
Voilà. Allez-y.
Je suis tutrice légale de mes deux neveux qui ont malheureusement perdu leurs deux parents.
Oui.
Et idem, je souhaite leur faire une demande de nationalité française.
Ouais.
Parce que j'ai le garçon qui a de bonnes notes et qui souhaite intégrer une école militaire de pilote.
Alors, quand vous dites tutrice, c'est-à-dire qu'il y a une décision de justice qui dit que...
Tout à fait.
Oui, voilà, hein, parce que bon, on entend parfois ce terme, mais c'est dehors de tout cadre juridique. Donc, en la matière, alors d'abord, juridiquement, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'ils font en la matière, c'est évidemment informer le juge du tribunal d'instance de la procédure que vous allez engager. C'est-à-dire qu'il y a toujours un juge du tribunal d'instance quand il y a des tutelles qui sont mises en place, donc qui est là pour, on va dire, contrôler un peu ce qui se fait. Bon, il n'y a aucune raison, évidemment, qui vous refuse, mais voilà, il faut quand même informer l'autorité judiciaire de ce projet-là.
D'accord. Et donc, pour les petits, pareil, ça sera une naturalisation, ou étant donné qu'ils sont mineurs, j'ai le droit de...
Non, alors encore une fois, vous êtes la tutrice, vous n'êtes pas la mère légalement parlant, donc qui bénéficieront entre guillemets de vous, ni de votre nationalité si demain vous devenez française, ni d'autre chose. C'est-à-dire que la question se posera aussi pour eux, mais toujours dans le cadre d'une naturalisation.
D'accord, c'est parfait. Et j'ai pas de troisième question.
C'est
parfait en tout cas. On fait un gros bisou, Isma.
Gros bisous et puis agréable journée. Merci.
Merci, Isma.
Merci beaucoup. Badreddine est avec nous. Badreddine, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Voilà, Badreddine, bonjour, si vous avez le kit main libre ou le haut-parleur, revenez à nous.
Ok, juste de m'arrêter, juste 5 minutes.
Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour et on vous entend mieux surtout, c'est ça qui est.
Et moins dangereux.
Et moins dangereux pour vous, c'est sûr.
Oui.
Alors, est-ce qu'on récupère Badreddine ?
Est-ce que vous m'entendez mieux?
Ah voilà, c'est formidable. Allez-y, Maître Serran vous écoute, Badreddine.
Oui, bonjour, Monsieur Serran.
Bonjour, Badreddine.
Moi, c'est une petite question. Donc, j'ai mes parents qui sont assez âgés. Donc, mon père qui a 87 ans et ma mère 74 ans. Et maintenant, ils sont fatigués. Et j'ai une sœur qui est au Maroc et qui peut s'en occuper. Parce que nous, on est tous mariés, on est tous partis de la maison. Donc, il n'y a plus personne avec eux.
Vous êtes de quelle nationalité?
Française.
D'accord.
Donc, en fait, nos origines, c'est des Marocains. Il y a juste une
sœur
qui a vécu ici, qui est repartie au Maroc. Et donc, maintenant, elle a divorcé et elle est seule là-bas.
Ouais. Donc, il n'y a que votre sœur qui est là-bas. Il n'y a personne d'autre. Aucun autre enfant.
Non, du tout, non. Donc, j'ai une sœur qui est en Angleterre, l'autre en Italie et moi qui est là. Donc, le temps d'aller les chercher, le faire sortir, le faire promener avec sa chaise, ça commence à devenir lourd pour moi et pour mon épouse. Donc, c'est pour faire, en fait, on a fait deux fois la demande de visa pour ma sœur et ça a été refusé à chaque fois.
Encore une fois, là, juridiquement, ça me semble difficile à soutenir. C'est-à-dire qu'on on va vous dire tout simplement que la présence de votre sœur, qu'on le veuille ou non, encore une fois, n'est pas indispensable puisqu'il y a déjà quelqu'un qui peut éventuellement s'occuper. Alors, je comprends bien, dans les conditions très difficiles, mais qui peut s'occuper des parents. Donc, franchement, moi, ça, j'allais presque vous dire, je ne sais même pas si ça vaut la peine d'aller devant une juridiction. C'est peu probable, Badreddine, c'est peu probable qu'un tribunal puisse vous donner satisfaction, sincèrement.
Ah, ok, d'accord.
Et c'est, votre sœur est en bonne santé, vous ne pouvez même pas argumenter là-dessus. Vous allez pouvoir, enfin, eux, l'administration va considérer que vous pourrez vous occuper de vos parents. Donc, pourquoi est-ce que moi, État français, j'autoriserai votre sœur à venir sur le territoire? Bon. Et puis se posera la question, c'est-à-dire que même si elle vient sur le territoire, elle va aller chez qui? Donc elle n'a pas, par définition, son propre domicile.
Mes parents, ils ont leur propre domicile.
Oui, voilà. Non, mais j'entends bien. Enfin, voilà. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est que l'administration française peut accorder, enfin peut dire aux parents, venez, puisque vous avez un enfant qui est installé en France, il est autonome financièrement, il a un bien. Voyez, mais le raisonnement inverse est difficilement tenable. C'est-à-dire dire à votre sœur, venez et elle va vivre chez vos parents. Bon, je suis l'administration française, je me dis tout simplement, en gros, ça va peut-être plus rendre service à votre sœur qu'à vos parents. Vous êtes là pour vous en occuper. Donc, vous voyez, ça me semble très difficile à faire passer devant un tribunal administratif. Ah, excusez-moi, il y a un concert qui vient de commencer. Là, c'est le téléphone de Philippe Robichon. Je balance.
Mon téléphone diesel. Ouais, diesel.
Je balance à l'antenne. Hein. Donc, ça me semble difficile, hein, Badreddine, sincèrement, hein, comme argument à soutenir devant un tribunal.
Oh, ouais. Okay, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il retourne là-bas, c'est mieux.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que. Voilà, mais moi, je peux. Alors, d'abord, oui, c'est-à-dire qu'après, c'est aussi difficile pour le couple et pour toute la famille. Mais moi, je considère, ça vaut ce que ça vaut, que quand on a un certain âge, et s'il y a la possibilité, évidemment, si vous êtes dans un bled perdu et il n'y a pas un médicament dans le secteur ou un médecin, si vous pouvez venir en France, venez. Mais. Toutes les demandes qu'on a, c'est pas forcément ce contexte-là. Quand on a un certain âge, moi, je considère que les quelques années qui peuvent rester à vivre, il me semble, mais ça n'engage que moi, qu'il vaudrait peut-être mieux les vivre dans son pays d'origine. Bon, après, encore une fois, ça n'engage que moi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, mais après, comme il est suivi par le... Il a eu un cancer de prostate.
Ah, voilà, non. Après, il y a des circonstances, et notamment de nature médicale, qui, j'allais presque dire, quel que soit l'âge, oui, il vaut mieux être suivi sur le territoire français. Ça, je l'entends, je le comprends.
Aussi, en fait, pourquoi il reste ici, c'est raison médicale.
D'un autre côté, c'est, vous dites ça aussi, Maître Serran, parce que vous avez du recul et vous voyez beaucoup de gens qui ont un certain âge, qui viennent s'installer en France et qui après sont déracinés et qui ont beaucoup de peine parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Voilà.
C'est une misère absolue. Ouais. Parce que...
Vous expliquez pourquoi vous dites ça, parce que ça peut paraître un peu brutal.
C'est vrai,
vous dites
ça vous avez raison.
À Badreddine.
Après, un autre contexte. Donc, moi, personnellement, donc, c'est un calcul que je fais. Donc, il y a l'infirmière qui vient les soigner trois fois par jour. Donc, je trouve que c'est plus cher, ça reviendrait moins cher de faire venir ma sœur ici que l'infirmière qui vient trois fois par jour.
J'entends bien. Non, non, mais j'entends bien, encore une fois. Mais pour répondre...
Il y a un calcul bassement matériel. Non, voilà, et réaliste.
Pour répondre à la remarque de Philippe, et il a raison, c'est-à-dire que on voit des clients d'un certain âge qui effectivement dépérit sur le territoire français. Parce que qu'on le veuille ou non, ils ont, alors si ce n'est de la famille, ils ont des amis, ils sont dans un village, il y avait des voisins, et puis les maisons sont quand même beaucoup plus grandes que des studios de parfois 20, 30 ou quand c'est 50 mètres carrés, c'est que c'est très grand. Donc les personnes se mettent parfois en difficulté, c'est ça aussi. Donc et on les voit dépérir sur le territoire français. Et c'est vrai que, mais je suis le premier à leur dire... Encore une fois, réfléchissez, qu'on le veuille ou non, ça vaudrait peut-être le coup de rester au pays, parce qu'encore une fois, il y a le climat, il y a l'ambiance, c'est quand même autre chose. Donc il faut aussi faire attention à ça. C'est pas certain d'ailleurs que les parents souhaitent toujours venir sur le territoire français. Ouais, des fois,
non,
quand on s'entretient...
Mon père, il est pour rentrer...
Voilà, ouais, je vous assure que quand on s'entretient...
Mère, elle me dit, ouais, donc ouais, c'est pour les petits-enfants... Pour
ben oui, non, mais ça, je l'entends. Mais quand on reçoit, nous, que les parents, c'est-à-dire sans les enfants ou les petits-enfants qui les accompagnent, je peux vous assurer qu'à la suite du rendez-vous, on n'est pas persuadé que c'est une volonté des parents. C'est souvent les enfants ou petits-enfants qui insistent, et une fois qu'ils les font venir... Les parents sont un peu dans la galère, donc faut aussi faire attention à ça.
Tout à fait, tout à fait.
Badreddine, est-ce que vous avez une autre question ?
Merci, maître. Merci.
Merci à vous, Badreddine.
Merci, bonne route et bonne semaine. Merci à vous d'avoir été si nombreux à appeler, maître Serran. Vous revenez la semaine prochaine. Pour tous ceux qui ne vous ont pas pu, enfin qui n'ont pas pu vous joindre au standard, ils peuvent vous appeler sur votre téléphone portable. Donc vous allez gentiment nous rappeler votre numéro de téléphone.
Et même à deux reprises, raccrochez pas tout de suite. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et dans un instant, à partir de 11h, ce seront vos petites annonces en direct sur Beurre FM. Je sais que vous aimez beaucoup les petites annonces, maître Serran.
J'adore
si vous aimez,
ça.
Ouais, si vous avez une annonce, passez-la ou alors écoutez-nous. Ça nous fera plaisir, en tout cas vendredi.
Beurre FM, 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon.